Nous allons aborder les paraboles dans l'ordre chronologique du livre qui nous est donné, qui est La Bible pour tous, récit de l'Ancien et du Nouveau Testament, Pierre Téquy, éditeur, par Monseigneur Cerfaux, pardon, Cerfaux, professeur à l'Université de Louvain, consulteur de la Commission biblique pontificale. Qui a été réédité par les éditions Teki et qui était de 1953. C'est une Bible pour enfants. Hein, elle a été réimprimée en 2016. Voilà. Alors, si je ne m'abuse, nous avions bien évoqué la tentation du Christ. Oui, nous étions à quelle page? Est-ce que quelqu'un a corné sa page? Ou a mis un petit signet? Non? Personne n'a retenu d'il y a 15 jours. C'est bien dommage. Voilà. Alors, les noces de Cana, nous l'avions vu. L'entretien avec Nicodème, non. Voilà. Alors, nous allons recommencer à la page 75. Jésus appelle ses premiers disciples André, qui appelle son frère Simon, que Jésus va surnommer Pierre, Jean, qui a pour frère Jacques, Philippe et Barthélemy. Ils répondent à leur vocation. Cependant, ils continueront à nier encore leurs occupations, c'est-à-dire qu'ils étaient pour les uns marins-pêcheurs. Mais pour les autres, c'était aussi des pharisiens comme Jean qui faisaient de la pêche pour avoir un métier manuel. C'est comme les bénédictins, ora et labora, prie et travaille. Eh bien, les pharisiens avaient tous un travail manuel, même si c'était les plus grands des érudits et qu'ils connaissaient la Bible à l'endroit, à l'envers. Et donc, cette connaissance, cette observation de la loi, de la religion, cette observance religieuse, eh bien, était toute particulière chez eux. Mais ils avaient un métier manuel pour garder un sens des réalités. Tous ne le gardaient pas d'ailleurs. Eh bien, Saint Paul était un pharisien, donc il avait un métier manuel. Et quel était le métier de Saint Paul? Alors que c'était un grand érudit qui avait appris auprès de Gamaliel, qui était un grand pharisien, un grand maître, eh bien, il faisait de la couture de tentes du désert, de bédouins. Donc, c'est plus fin quand même comme aiguille hein, pour traverser des tentures, des peaux de bêtes, n'est-ce pas? Il faisait des tentes et qui se vendaient relativement bien. Donc, c'est pour ça que Saint Paul n'a jamais dépendu financièrement des communautés chrétiennes, parce qu'il continuait à faire ses tentes, figurez-vous, de temps en temps, hein, pas tout le temps, bien sûr, il était hébergé, nourri, mais à un moment donné où il a eu besoin d'argent, il n'a demandé d'argent qu'à la communauté des Corinthiens, je pense. Et donc, voilà ces hommes qui, les uns, sont des pêcheurs. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand certains vous disent que tous les apôtres étaient des hommes grossiers et sans éducation, d'abord, ils avaient tous une éducation. Parce que la personne la plus pauvre en Israël, comme le paysan le plus pauvre en France, recevait une excellente éducation de ses parents, religieuse et morale. Et donc, ce n'était pas des personnes rudes. Il a choisi, il n'a pas. Le seul qui était un juif qui avait dû être observant, mais qui s'était relâché, c'était Lévi, surnommé Matthieu. Parce que lui avait collaboré avec l'occupant romain, quand même. Mais c'était un homme qui avait une instruction. C'était un économe. C'était quelqu'un qui était un banquier, hein, Lévi. Et donc, lorsqu'il abandonne sa collaboration avec l'occupant romain, qu'il abandonne son métier de banquier, ben c'est pas rien, hein, pour lui. C'est une vraie conversion. C'est un publicain, Lévi, Matthieu. Et pour les autres, ce sont des zélotes aussi. Il y a quelques apôtres qui sont des zélotes. Les zélotes, c'était les résistants qui voulaient la lutte armée hein, contre la présence de l'occupant romain. En ce qui concerne Pierre et son frère André, enfin Simon-Pierre, eux étaient marins-pêcheurs et observants, mais pas pharisiens. Jean était pharisien. Et Paul était un pharisien, mais il n'a été choisi par le Christ après la résurrection, dans une apparition particulière que même le catéchisme de l'Église catholique signale. Parce que le Christ est revenu en chair et en os, corporellement, pour appeler Paul. Voilà ce que nous dit la tradition orale, et donc écrite, puisque c'est dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Alors, le Christ commence à enseigner, et il enseigne d'une manière tellement pure et tellement simple qu'il impressionne ceux qui connaissent la Bible, les docteurs de la loi, les scribes. Les scribes sont ceux qui écrivent, les écrivains publics, qui savent lire et écrire parfaitement, qui recopient des textes, et qui, quand ils sont des juifs pieux, connaissent parfaitement la Sainte Écriture. Les prêtres, hein, qui eux sont de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Et donc, ils sont contraints de naissance à étudier la loi et les Saintes Écritures. Mais ils sont peut-être parfois moins savants qu'un docteur de la loi, qu'un scribe qui connaît très bien les Écritures. Mais il y a des prêtres qui sont à la fois, en quelque sorte, scribes et docteurs de la loi, et prêtres. Mais pharisiens, ce ne sont pas les prêtres. Et les prêtres, à cette époque-là, forment, à un moment donné, un groupe assez orgueilleux qui va remettre en cause la résurrection des morts, et qu'on appellera les Sadducéens. La plupart des prêtres font partie de cette hérésie. Et ils sont du coup en querelle avec ceux qui sont observants et qui suivent la tradition synagogale pleine et entière, que sont les pharisiens. À un moment donné, saint Paul, lorsqu'il sera prisonnier, va avoir un coup de génie absolument extraordinaire. Il est là, vous avez le gouverneur romain qui dit « qu'est-ce que je fais de lui ?» Vous avez les juifs qui sont devant, il dit « tuez-le, tuez-le, tuez-le ». Et là, saint Paul, inspiré par l'Esprit Saint, dit « mais si je suis là et si je vais... si je suis en danger d'être condamné, c'est parce que je crois en l'existence des esprits, des anges et en la résurrection des morts. » Sans préciser que Jésus est ressuscité des morts, hein. Mais les pharisiens croyant en la résurrection des morts et croyant en la survivance de l'esprit après la mort corporelle. Tandis que les Sadducéens avaient considéré que Dieu créateur nous faisait exister, mais qu'à notre mort on mourrait comme les moustiques. Mais ils croyaient en l'existence de Dieu, ils croyaient que Dieu avait accompagné le peuple juif historiquement, ils croyaient qu'on était bien vivant de notre conception à notre mort, mais qu'après notre mort, c'était fini. Et du coup, ils ne croyaient pas non plus dans l'existence de purs esprits. Pas seulement, ils ne croyaient pas dans l'existence de l'âme, qui est un esprit qui est séparé du corps d'une manière violente, parce que notre nature humaine est faite d'une union intime entre un esprit et un corps. C'est une distinction spirituelle et que je vous ai déjà évoquée déjà plusieurs fois, mais que je vous rappelle. Quand on appelle esprit ou âme, c'est une distinction pour parler plus de l'âme en tant qu'elle pense, en tant qu'elle est au-dessus de la vie terrestre, au-dessus des nécessités corporelles. On parlera de l'esprit. Dans l'amour, la charité, le don de soi, la générosité, on parlera plus de l'esprit. On parlera plus de l'âme en ce qui concerne les affections, les passions, les élans, les émotions. Mais en fait, c'est la même réalité, hein, c'est un principe de mouvement immatériel, sans matière, qui chez l'être humain est immortel, tandis que chez l'animal, il est réduit à la puissance de la matière, à la désorganisation du corps. Alors peut-être que Dieu fera ressuscitera certains animaux que vous avez beaucoup aimés. C'est possible, hein? De puissance divine, c'est possible. Mais en soi, tous les chiens ne ressusciteront pas, tous les chats sauvages ne ressusciteront pas, tous les moustiques ne vont pas ressusciter, tous les pigeons de Paris ne vont pas ressusciter. C'est leur âme, qui est un principe immatériel pourtant, hein, est anéantie à leur mort. Alors, par contre, l'âme humaine, elle a des actes abstraits au-dessus de la matière, et Dieu nous a révélé que nous sommes, que l'âme est immortelle. Et donc, les Sadducéens le contestaient. Et du coup, ils atteignaient jusqu'à l'existence, bien sûr, des esprits non animant un corps. Animation, anima, l'âme. Mais là, les anges n'animent pas de corps. Ce sont de purs esprits. Donc, s'ils niaient l'existence d'un esprit immortel dans le corps humain, ils niaient aussi, du coup, l'existence des anges, les Sadducéens. Voyez? Alors, à un moment, saint Paul va dire, voilà, mais moi, je suis prisonnier parce que certains m'en veulent parce que je crois en l'existence des anges et en la résurrection des morts. Et alors du coup, les pharisiens disent, ben oui, il a raison. Enfin, il a raison de dire que les esprits existent. Et les sadducéens disent, mais pas du tout, il dit n'importe quoi, mais quoi, mais comment, et tout ça. Et ils se disputent. Et là, il y a le gouverneur romain qui est païen. Et il voit cette foule qui tout d'un coup se divise pour une question théologique qui est grave en soi. Hein. Mais lui, il n'en revient pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces charlots? Donc, du coup, il libère Paul. Il dit, bon, bah, si c'est comme ça, c'est pas grave, ça doit pas être grave. Hein. Si eux-mêmes sont pas d'accord pour savoir quel sort je vais réserver à cet homme, on n'en parle plus. Alors, parmi ces pharisiens, il y avait un, comment dire, parmi les grands d'Israël, il y avait ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin avait été constitué du temps de Moïse, lorsqu'il était dépassé par les événements et qu'il devait juger en tant que grand prophète tout le peuple. Et c'est un païen d'ailleurs qui lui conseille de prendre de déléguer son autorité juridictionnelle. Et donc je confonds toujours si c'est 70 ou 72 membres du Sanhédrin. Donc il les choisit et il y en a deux qui étaient absents. Et Moïse se met en prière et Dieu prélève une part de l'esprit prophétique de Moïse et les donne à ces 72 hommes qui se mettent à prophétiser, qui se mettent à avoir un parler en langue, mais tout à fait authentique. Et donc deux étaient absents, mais pas par mauvaise volonté, et ils étaient dans le camp des Hébreux et ils se mettent à prophétiser. Parce que la prière de Moïse est une prière constitutive, et ça nous fait penser au sacrement de l'ordre. Dans le sacrement de l'ordre, comment dire, l'Esprit Saint modifie quelque chose en nous, définitivement, comme dans le sacrement du baptême. Définitivement, il y aura dans votre âme un appel de la grâce. Vous êtes aimés de Dieu parce que vous êtes des êtres humains, baptisés ou pas baptisés. Et Dieu veut votre bonheur et votre salut. Et vous donne des inspirations et des grâces, même si vous n'êtes pas baptisé. Par contre, quand vous êtes baptisé, vous avez une marque dans l'âme, ce qu'on appelle un caractère, comment dire, qui définitivement appelle la grâce tout le temps, tout le temps, tout le temps. En justice, en quelque sorte, autant qu'en miséricorde. Eh bien, la confirmation marque également l'âme de ce sceau, alors qu'elle n'est pas matérielle. Hein. Votre âme, ce n'est pas un morceau de cire. Vous avez une marque dans l'âme quand vous appelez spécifiquement le Saint-Esprit, par la confirmation. Et le prêtre reçoit lui-même aussi une marque qui va le configurer à la participation de la grâce de Jésus prêtre, qui est un propre de l'âme de Jésus. Et donc on participe à ce pouvoir sacerdotal de Jésus, ce qui nous donne le pouvoir indirect, mais réel, de consacrer l'hostie en disant en vérité ceci est mon corps alors que ce n'est pas mon corps, mais on parle et Jésus agit à travers nous par notre âme et par notre corps d'ailleurs. Et quand on absout, hein, quand on pardonne les péchés, c'est Jésus qui vous pardonne à travers nous. Et l'évêque, donc successeur des apôtres, le chef de prêtre, prêtre, chef de prêtre, évêque, va avoir un pouvoir de former dans l'âme d'un homme la présence, la participation à l'union de la divinité du Verbe et de l'âme du Christ. Donc c'est le sacrement de l'ordre, c'est l'ordination des prêtres. Il n'y a que l'évêque qui peut le faire. Et la confirmation, l'évêque le fait par principe et le prêtre ne peut le faire que par exception. Et le sacre d'un évêque, l'ordination épiscopale, ne peut se faire que par un évêque. Un évêque ne peut créer un autre, il n'y a qu'un évêque qui peut créer un autre évêque. Et tout ça, Jésus l'a fait. Il l'a fait à 12 hommes. Un a trahi, d'ailleurs, Judas. Et ces 11 qui ont suivi ont imposé les mains pour faire des évêques. Et c'est ce qu'on appelle la succession des apôtres, la succession apostolique. Sans interruption, depuis Jésus, tout évêque catholique a eu l'imposition des mains par un évêque catholique. Ce geste de poser les mains sur la tête a été fait sans interruption depuis les apôtres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, du point de vue providentiel. Et sans interruption, un prêtre n'a été prêtre que parce qu'un évêque lui a posé les mains sur la tête. Jamais un homme ne devient prêtre sans qu'un évêque lui pose les mains sur la tête et lui dise les paroles « Tu es prêtre ». Ce sont des paroles plus riches, plus détendues, mais ce sont ces paroles-là. Geste, imposition des mains, c'est-à-dire que l'Esprit-Saint vient dans notre âme et la transforme. Vous voyez ? Et c'est assez impressionnant. Alors, ce soir, c'est Nicodème, qui fait partie des 72 sages d'Israël, des 72 membres du Sanhédrin, de l'Assemblée des sages d'Israël, qui avait été désigné aussi pour avoir une mission de reconnaître le Messie. Quand il arriverait, de le dire, c'est lui le Messie. Et donc Nicodème, lui, est membre du Sanhédrin, et lui est bien persuadé que Jésus est au moins un prophète. Parce que Jésus commence à faire des miracles. Au début, Jésus se cache, hein. Il fait des miracles très, très humblement. Il dit « ne le répète pas, ne le dis pas ». Puis à un moment donné, il va le dire ouvertement. Et celui qui décrit la manière dont Jésus dit ouvertement qu'il est le Messie, contrairement à des commentateurs des évangiles totalement progressistes et hérétiques, qui disent « mais Jésus ne savait pas trop s'il était le Messie ou pas le Messie, s'il était Dieu ou pas Dieu ». Vous savez, il avait des problèmes existentiels. Non. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, c'est parce qu'il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc Jésus est en train de leur dire qu'il est le Messie, le Sauveur, attendu depuis des siècles, et aperçu par vision par de nombreux prophètes, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Jérémie, Isaïe. Et Abraham. Et donc, voilà que Jésus dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et là, la foule lui dit, mais tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Et là, Jésus dit solennellement, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce qui est très impressionnant aussi, à un autre moment, il dit, vous voulez me tuer. Il dit, mais qui veut te tuer, hein? Vous ne croyez pas. Qui je suis. Mais qui es-tu? Et là, Jésus le dit, je suis le principe. Vous ne croyez pas que je suis. Alors, on traduit, vous ne croyez pas que qui vous ne croyez pas qui je suis. Mais en fait, Jésus joue sur le nom divin. Hein. Vous ne croyez pas que je suis. Et vous ne croyez pas que c'est moi le principe qui vous parle. Et là, nous allons voir ce soir la parabole de la parabole, mais l'épisode de la Samaritaine qui est absolument extraordinaire. Voilà. Que j'avais déjà commenté les années passées, mais qui est dans la Bible, qui est quelque chose de prodigieux, extraordinaire. Nicodème est pharisien. Et lui, il dit, mais qui est-il? C'est un prophète, mais est-ce qu'il sera le Messie? Comment il va m'enseigner? Il y avait parmi les pharisiens un notable des Juifs du nom de Nicodème. Cet homme vint de nuit, parce que déjà, on jalousait énormément Jésus et on ne voulait pas qu'il parle, trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Là, c'est les traductions du brave Monseigneur Cerfaut. Ah, mais c'est, nous savons que tu es un prophète. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est une permission divine absolument incroyable. Si c'est Satan, si c'est un possédé, il guérit, il console. Enfin, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, alors là, il est là, il dit, bon, le salut, le bonheur éternel. Le royaume de Dieu, je comprends. Naître de nouveau. Et là, Nicodème, il lui dit, naître de nouveau. Et alors, comme il n'arrive pas à comprendre, il dit, quand on est vieux, comment peut-on renaître? Et là, il ne précise pas. Ah si, attendez. Enfin, je vais lire jusqu'au bout. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Et là, il coupe ici et il dit, est-ce qu'on peut rentrer dans le ventre de sa mère et ressortir adulte? Enfin, c'est pas possible. Et là, Jésus, un peu exaspéré, hein, parce que Dieu a du caractère, hein, vous savez, qu'il a interdit la messe dans toute l'Italie, c'est qu'il a beaucoup de caractère. Qu'il n'y a plus de messe publique dans toute l'Italie, que Dieu ait permis cela, même si ça ne vient pas de lui, même si c'est démoniaque, même si c'est un plan, même si c'est un complot, même si c'est, comment dire, de l'exagération humaine, ou alors peut-être une véritable peste future, où il va y avoir 1 million d'Italiens qui vont mourir par absence d'assistance respiratoire. Dieu ne peut pas être absent de cette permission divine qu'il n'y ait plus de messe publique à la basilique Saint-Pierre, à Rome, au Vatican. Enfin, c'est simple à dire quand même, c'est évident que Dieu le permet, comme il a permis que le toit de Notre-Dame brûle. Et là, Dieu, il montre son autorité. Tu es docteur en Israël? Et tu l'ignores. Il lui reproche de connaître toute la Sainte Écriture à l'endroit, à l'envers et même en hébreu. Oui.
Il s'appelle Jésus.
Et donc, voilà qu'il lui dit, tu es ignorant, tu ne comprends rien. Alors, les pharisiens, il faisait beaucoup de purification avec l'eau. L'eau purifie, mais de là à ce que l'eau tue et qu'on renaisse et qu'on revive. Voyez, pourtant Saint Jean-Baptiste en avait fait un signe. Et les pharisiens qui aimaient beaucoup l'eau et les purifications disaient, mais pourquoi baptises-tu? Pourquoi plonges-tu les gens dans l'eau? Si tu n'es ni le Messie, ni le grand prophète, ni Élie, revenu. De quelle autorité tu fais ça? Et là, Jean le Baptiste leur dit, mais il y a parmi vous quelqu'un qui vous baptisera dans le feu. Moi, je baptise que dans l'eau. Et là, Jésus lui dit, c'est pas seulement de l'eau, mais de l'esprit. Et alors, il lui donne quand même, parce que Nicodème est un homme extrêmement gentil et bon, et à moitié courageux quand même, il est venu le voir, même si c'est de nuit. Et il lui dit parmi les plus belles paroles, et je crois que c'est dans Saint Jean qu'on a cela. Alors, le reproche d'abord, tu es docteur en Israël et tu l'ignores. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc là, il lui révèle quand même déjà l'incarnation. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Alors le pauvre pharisien qui est là, c'est magnifique ce qu'il lui dit. Mais une chose que même Simon-Pierre n'acceptera pas, c'est que ça se fasse. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'il meure à notre place. Pour que son innocence divine et humaine rachète nos âmes. Alors, même si on n'est pas baptisé par l'eau, mais si on a le désir de la grâce du baptême, on peut mourir sans le geste du baptême d'eau et avoir le baptême de désir. Parce que le baptême de désir, c'est croire que Jésus nous donne la grâce du salut. Et le baptême d'eau consacre votre volonté, consacre votre acte de foi, le rend visible et officiel par un rite qui est simple et par lequel nous devons passer parce qu'il n'est pas impressionnant, extraordinaire ou extravagant. Mais si vous voulez, quelqu'un peut sauver son âme sans être baptisé avec le geste de l'eau. Mais il faut qu'il croie que Dieu est sauveur et qu'il pardonne les péchés et donne sa grâce. Tout homme, toute femme, tout enfant à travers les siècles, même s'ils n'ont pas eu la révélation chrétienne, doivent croire que Dieu existe, qu'il est rémunérateur, qu'il récompense le bien et pardonne le mal pour être sauvé. Et par quel moyen? Par le moyen de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi implicite en l'incarnation et en la rédemption, par la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Si vous voulez, le petit incas qui meurt en état de grâce, en ayant toujours eu une répulsion pour les sacrifices humains, des solstices de son peuple, eh bien, il voit Dieu à sa mort qui lui dit « Voilà, je vais sauver le monde par mon sacrifice. Et tu attendras que je vienne. » Enfin, les Incas, c'est plutôt après Jésus-Christ. Disons, des peuples à sacrifice humain d'avant Jésus-Christ. Combien d'âmes se sont sauvées par une conscience pure et vraie et ouverte à la grâce de Dieu et à la lumière de la vérité à travers des peuples et à travers des religions fausses. Mais seulement, ce n'est pas par leur religion fausse qu'ils se sont sauvés, mais par leur prière, leur sincérité et leur recherche de la vérité et de la justice, leur humilité à reconnaître leurs torts et leur désir du salut. Ce qui est tout à fait possible à travers les siècles et à travers les peuples pour toute âme. Seulement, voyez-vous, dans la révélation chrétienne, on a voulu envoyer des missionnaires à travers le monde pour aider toutes les âmes de bonne volonté et bousculer les âmes qui n'étaient pas en état de grâce, les âmes lourdes, pour leur donner des moyens plus profonds et forts que le bouddhisme, l'hindouisme ou autre chose. Ou les religions amazoniennes de l'adoration des arbres, des sources d'eau, des mottes de terre et des cailloux. Ou pour les Égyptiens, les crocodiles, les singes, les lions, les ibis et toutes sortes de choses qui ne sauvent pas. Par contre, l'homme, Dieu, Ponce Pilate, montre Jésus, l'agneau de Dieu, presque déjà immolé, et dit « Voici l'homme ». C'est absolument extraordinaire, puisque en tant que gouverneur romain et païen, l'Esprit Saint le saisit pour qu'il dise des paroles prophétiques. « Voici l'homme ». C'est comme le grand prêtre qui veut la mort de Jésus et qui dit « Vous n'y comprenez rien, si on n'arrive pas à prouver qu'il a menti, qu'il a manipulé le peuple, qu'il a dit qu'il détruirait le temple en 3 jours, qu'on détruirait le temple et qu'il le reconstruirait en 3 jours, que ce n'est pas exactement ce qu'il a voulu dire, bien sûr, c'était le temple de son corps et l'esprit. Il n'a jamais dit « il faut détruire le temple ». Eh bien, à un moment donné, Caïphe est là, il dit « Vous n'avez rien compris, il faut qu'un homme meure pour le peuple. Comme ça, on aura la paix. Ça sera un sacrifice expiatoire. » Mais son intention est malicieuse. Mais l'évangéliste commente en disant « Ce jour-là, cette année-là, il était le grand prêtre, et donc il avait quand même un esprit de prophétie. Il faut qu'un homme meure pour le peuple. » Eh bien, Nicodème, lui, il veut savoir, et Jésus lui répond d'une manière extrêmement élevée. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et le baptême, ça sera le baptême de sang. Nous, c'est le baptême d'eau. Et ça signifie le baptême de sang. Vous voyez, Jésus meurt étouffé, et nous, nous sommes plongés dans l'eau. Nous ne pouvons plus respirer. Pour la petite histoire, le coronavirus est une pneumonie. C'est-à-dire que le virus s'attaque les poumons et les voies respiratoires. Vous n'avez pas particulièrement de crampes aux jambes ou des maux de tête. Vous avez des sécrétions telles que vous étouffez et que vous mourrez étouffé. C'est la raison pour laquelle les Italiens ont commandé 3000 machines respiratoires. Parce que tous ne développent pas les symptômes sévères. Même le président de la République française, M. Emmanuel Macron, l'a dit aujourd'hui. Un certain nombre, 80% ou 85% ne développeront pas de symptômes sévères. Ça sera, vous resterez chez vous, comme le ministre de la Culture, qui a le coronavirus et qui est chez lui, et qui attend que ça passe pour reprendre ses activités. Par contre, toutes les personnes fragiles, elles pourront avoir les poumons encombrés et en mourir. Alors, voyez-vous, comment Jésus va apprendre à espérer et à aimer tout en révélant le prix de l'amour qui est le don de soi-même et le sacrifice de la croix. Alors, il le dira plus ou moins. Certaines paraboles ou certains épisodes seront très, très légers et lumineux et d'autres seront plus lourds et douloureux. L'épisode de la Samaritaine, il ne parle pas de sa mort, il parle vraiment de sa venue comme sauveur. Jésus arriva dans une localité de Samarie. Si vous vous souvenez du début de l'année, c'est les Juifs qui avaient été déportés, remis, mélangés à des païens, et le roi du Nord avait voulu faire une religion mi-égyptienne, mi-juive. Et donc les Juifs observants détestaient cela. Et du coup détestaient les Samaritains.